Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Michael Jaschutek et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 1 de la 4e saison de Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de Maude Laprise. Bonjour Maude.
Bonjour, je suis contente d'être ici aujourd'hui.
Moi aussi. Aujourd'hui, nous recevons l'honorable Nicolas Cazirère, juge à la Cour suprême du Canada. Alors, d'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. Nous avons un invité très spécial aujourd'hui sur notre émission.
Oui, alors aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir l'honorable juge Nicolas Cazirère comme invité. Donc, je vais vous introduire un petit peu cet homme. Donc, titulaire d'un premier baccalauréat en art de l'Université de Toronto, Nicolas Cazirère obtient en 1985 un baccalauréat en droit civil et en common law de l'Université McGill. Il poursuit ses études en obtenant un diplôme d'études approfondies en droit international à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Avant d'être admis au barreau du Québec, il agit comme auxiliaire juridique auprès de l'honorable Jean Beetz à la Cour suprême du Canada. Il mène par la suite une carrière professorale à l'Université McGill, où il fut également doyen avant d'être nommé juge à la Cour d'appel du Québec en 2009. Fait important à noter pour nous ici, l'honorable juge Nicolas Cazirère est membre du comité scientifique de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Il est aussi impliqué au sein de plusieurs autres revues, soit la Revue de notariat, le Journal of Civil Law Studies de la Louisiana State University et la Revue internationale de droit comparé de Paris. Il occupe le poste de juge à la Cour suprême du Canada depuis 2019.
Excellent. Merci beaucoup. Bienvenue à notre émission, Monsieur le juge Nicolas Cazirère.
Merci beaucoup, Michael. Merci, Maude. Je suis ravi d'être là. Comme Maude le souligne, je suis membre du comité de rédaction de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke, mais j'ai des liens avec l'Université de Sherbrooke qui remontent à très loin. J'étais, comme Maude l'a souligné, j'étais professeur d'université pendant de longues années et en début de carrière, j'ai enseigné pendant un été à l'Université de Sherbrooke et à l'époque, j'avais insisté auprès du doyen qu'ils me fournissent un chalet au bord du lac Massawippi comme condition de travail. Ils l'avaient accepté. Alors, j'ai passé un été absolument splendide en Estrie. Mais ça remonte un peu à l'âge de bronze, mais c'est tout de même. Alors, je garde un souvenir très, très favorable, très vif de Sherbrooke. J'ai plein d'amis qui sont parmi les professeurs, dont votre doyen, Louis Marquis, la vice-doyenne Geneviève Cartier, plein d'autres, le directeur de la revue. Est-ce que c'est toujours Mathieu Devina qui est directeur de la revue là, ou peut-être pas?
Co-directeur maintenant, avec professeur Andréane Malaquette qui est co-directrice.
Ah, ben avec Madame Malaquette qui était, quand j'étais juge à la Cour d'appel, qui a fait un tour de piste comme recherchiste à la Cour d'appel. Alors, c'est du monde connu pour moi à Sherbrooke. Je suis très attaché à votre université.
Merci beaucoup. Commence par le fond de l'entrevue maintenant. Parlons du rôle de la Cour suprême. La Cour suprême est la juridiction d'appel de dernier recours au Canada. Quel rôle joue la Cour et qu'est-ce qui la distingue des autres tribunaux exactement, des autres tribunaux d'appel?
Bien, bon, ben, il y a des évidences. Là, c'est, comme vous dites, c'est la Cour suprême qui donne le dernier mot pour le pays, pour tout le pays, pour le Canada. Donc, contrairement, par exemple, à la Cour d'appel du Québec, qui est le tribunal du dernier ressort pour des questions de droit civil du Québec, procédure civile, droit criminel pour des Québécois. On peut remonter, bien sûr, on monte à la Cour suprême pour le dernier mot, comme c'est le cas dans toutes les provinces canadiennes et les territoires. Alors ça, c'est la chose la plus évidente. Ce qu'on comprend un peu moins bien, c'est que les causes à la Cour suprême, il n'y en a pas beaucoup, 70 par année environ. On se dit, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? C'est si peu de causes, ils jouent au golf à la journée longue. Ce n'est pas le cas. On travaille très, très, très fort parce que les causes sont parmi les plus difficiles et sont trier sur le volet, c'est-à-dire la Cour choisit, pour l'essentiel, choisit ses dossiers dans un processus qui s'appelle la demande de permission d'interjeter appel ou quelqu'un qui cherche à faire réformer un arrêt d'un tribunal d'appel d'une des provinces ou d'un territoire demande à la Cour la permission d'interjeter appel. Alors là, c'est environ 500 ou 600 par année qu'on reçoit des demandes de permission qu'on ne voit pas. Le public ne voit pas beaucoup ces demandes de permission, mais ça fait, c'est une grande partie de mon travail de passer en revue de cela, de sorte que la Cour, puisqu'elle sélectionne ses dossiers, n'est pas une Cour d'erreur. Et ça, c'est une chose que les gens ne comprennent pas souvent. On n'est pas là nécessairement pour corriger des erreurs des instances inférieures. Alors, on peut peut-être voir un jugement de la Cour d'appel de je ne sais pas quoi, moi, Manitoba, qu'on regarde puis on se dit, bah, tiens, on pense que on pense amicalement, respectueusement, que la Cour d'appel s'est méprise, là, mais ça ne suffit pas pour obtenir la demande de permission, la permission d'appeler à la Cour suprême. Il faut une question d'intérêt public. C'est ça le critère, intérêt public. Il y a des exceptions. En matière criminelle, par exemple, s'il y a une dissidence en Cour d'appel sur une question de droit, là, vous avez l'appelant à un appel de plein droit à la Cour, n'a pas à demander la permission, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est les 9 juges qui font la sélection des dossiers qu'ils trouvent sont d'intérêt public. Alors, quand vous voyez un dossier qui est à la Cour suprême, vous savez, dans presque la totalité des cas, que la Cour a choisi de l'entendre et croit à l'avance que cette question va façonner le cours du droit, parce que c'est surtout des questions de droit, bien sûr, au pays. Outre cela, le rôle particulier, mais nous sommes un tribunal d'appel comme les autres, avec une responsabilité peut-être plus visible à titre de gardienne de la Constitution. Il y a beaucoup de dossiers de droit constitutionnel qui passent à la Cour suprême, beaucoup moins, par exemple, qu'on le voit à la Cour d'appel du Québec ou à la Cour d'appel d'Ontario. Et donc, il y a une vocation particulière à protéger la primauté du droit. Et l'autre différence, c'est qu'il y a 9 juges, seulement 9 juges. Alors, c'est les mêmes 9. Imaginez-vous que vous êtes à l'université et que vous avez les mêmes 8 collègues de classe tout le temps. Commencez à les connaître au fur et à mesure de vos travaux. Et les gens qui ont des opinions, des visions du monde qui se confirment. Alors, c'est ça ce qui est particulier de la Cour suprême.
J'aurais une question pour continuer sur cette lancée-là. Vous avez mentionné à la Cour suprême, il y a seulement 9 juges. Puis moi, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Évidemment, vous êtes tous des experts en droit, mais vous n'avez pas nécessairement les connaissances sur tous les domaines qui existent ou qui peuvent, sur les dossiers qui peuvent se rendre en Cour suprême. Donc, comment ça fonctionne? Parce que vous êtes tous appelés à vous prononcer, même si c'est peut-être un domaine avec lequel vous n'êtes pas du tout familier. Donc, je me demandais comment ça fonctionne.
Bonne question. C'est contrairement à ce qui se passe dans la profession juridique plus globalement, les tribunaux, pour l'essentiel, les tribunaux canadiens et surtout les tribunaux d'appel sont des cours dites généralistes. Alors, ça veut dire que, par exemple, à la Cour d'appel du Québec, pour prendre cet exemple-là, vous aurez des juges avec un parcours de droit criminel ou de droit des affaires ou de droit de la famille, mais qui, en formation, seront appelés à trancher dans des domaines qui n'est pas les leurs. À la Cour suprême, la chose se complique davantage parce que non seulement les domaines sont parfois étrangers au background du juge en question, mais aussi la province en question. Alors là, par exemple, la semaine dernière, nous avions des appels en provenance de l'Ouest canadien, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de Saskatchewan essentiellement, Et bon, c'est des coins de pays que je connais un peu, mais moi, j'ai vécu presque toute ma vie au Québec ou un peu en Ontario pour mes études et en Europe, mais la Saskatchewan, c'est un endroit que je connais moins bien. Alors, vous avez raison, Maud, de dire que comment vous faites là? Alors, il est entendu que tous les juges sont appelés à travailler un peu hors de leur zone de confort. Alors, mais il y a de l'entraide. C'est une espèce de mosaïque à la Cour suprême. Moi, je suis professeur d'université j'ai enseigné en droit de la famille, en droit des obligations, en droit des biens. Mais j'ai des collègues qui ont fait presque que du droit criminel. Alors, ils sont bien sûr bien rodés en droit criminel. On s'entraide. Puis on a aussi des auxiliaires qui nous aident avec la recherche et tout.
Monsieur le juge, vous avez mentionné que la Cour suprême est surtout spécialisée ou intéressée en fait à des questions de droit d'importance pour le public. Et comme la Cour suprême tranche surtout des questions de droit d'intérêt public, elle est perçue comme une institution nationale importante au Canada. Ma question pour vous, c'est comment la Cour réussit-elle à préserver cette confiance du public?
Ah, c'est une bonne question. Mais je dirais, la confiance du public, on ne travaille pas en fonction de cette confiance comme objectif premier. C'est comme un accessoire au bon travail. On aurait un peu du mal à accepter un tribunal qui tranche des affaires en fonction des attentes du public, en fonction d'une volonté de gagner la faveur du public. Non, c'est pas ça. Les tribunaux canadiens, comme la Cour suprême, mais c'est le cas de tous les autres, sont des institutions dites indépendantes, et l'indépendance judiciaire est au cœur de qu'est-ce que c'est un juge dans une démocratie. Alors, on n'est pas là pour être populaire. On est là pour préserver davantage une présomption d'impartialité. Donc, quelqu'un qui se présente devant la Cour, même avec une cause qui n'est pas très populaire, peut compter sur le fait que les juges, qu'elle ou il voit, n'ont pas décidé d'avance, ne sont pas là pour gagner de la popularité. Contrairement à dans certains pays, même aux États-Unis, pour certains tribunaux, où les juges sont élus et qui partent en campagne électorale, on n'a pas ça à faire. Alors, parfois, on accepte que les arrêts que la Cour décide vont provoquer la controverse, ou il va y avoir des opinions au sein du public qui ne sont pas tous favorables. Et puis, on le voit, la Cour elle-même n'est pas toujours d'une seule opinion. Il y a des... Vous avez vu récemment que la Cour s'est divisée 5-4, 6-3 dans des affaires très, très importantes. Alors, surtout, je suppose, Michael, pour répondre directement à votre question, la confiance du public est gagnée avant tout par les motifs qui sont rédigés par la Cour. Les motifs, la fonction des motifs, c'est bien sûr expliquer aux parties pourquoi la Cour décide d'une façon ou d'une autre. Mais un grand juge a une fois décrit la fonction d'un jugement ou des motifs d'un jugement comme étant une fonction de légitimité. La légitimité de l'exercice du pouvoir judiciaire tient de ces explications-là. Alors, les juges sont conscients, donc travaillent très fort leurs motifs, mais ce n'est qu'indirectement qu'on gagne la confiance du public, pas directement.
Et j'aimerais continuer un petit peu dans cette lancée-là du rapport entre la Cour et le public canadien. Dans sa dernière rétrospective annuelle, la Cour a exprimé un fort intérêt pour améliorer l'accès à la justice, notamment en adaptant quelques-unes de ses façons de communiquer avec le public. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ces initiatives-là en matière d'accès à la justice?
Oui, c'est un fait à relever. Vous le faites bien, Maud. Là, c'est C'est une préoccupation particulière de notre juge en chef, Richard Wagner, que vous connaissez sans doute. Monsieur Wagner, qui est juge en chef depuis maintenant presque 3 ans, il a le souci, depuis le début de sa carrière, de l'accès à la justice, et il comprend qu'une justice qui est comprise par le public est une justice qui est plus accessible. Je pense que c'est le point essentiel. De sorte que il y a des initiatives qui ont été prises pour rendre plus transparents les travaux de la Cour. Un exemple serait la publication, vous l'avez peut-être vu sur le site de la Cour, de ce qu'on appelle la cause en bref. Alors, le problème, c'est que, bien sûr, vous êtes étudiant en droit, là, vous êtes calé en droit, vous pouvez tout comprendre, mais un membre du public qui n'a pas la formation d'un étudiant ou d'une étudiante de l'Université de Sherbrooke cherche à comprendre Alors, on lit un jugement ou du moins, on est confronté à un jugement qui peut-être a une centaine de pages. On se dit, mais comment comprendre ça? Alors, la cause en bref, c'est un résumé de 2 ou 3 pages fait dans un langage clair, destiné à un public de non-juristes essentiellement, qui explique les enjeux puis l'essentiel de la décision de la Cour. Alors, ça, c'est une très, très bonne idée, mais comme je dis, ça va au-delà de cela. Il y a une sensibilité qu'il faut entreprendre un contact auprès du public pour que rendre moins opaques les travaux de la Cour. Alors, le juge en chef, par exemple, il fait, et c'est quelque chose de très nouveau, une conférence de presse annuelle. Par le passé, l'idée qu'un juge en chef du Canada ferait une conférence de presse était un peu inimaginable. C'était pour des politiciens et non pas pour les juges. Mais M. Wagner, qui a d'abord, il faut le souligner, il a le talent de communicateur qui est très rare. Il est très à l'aise dans les deux langues. Il saisit bien les enjeux et il comprend le devoir de réserve parce que le devoir de réserve limite ce que un juge peut dire. Alors, il y a de telles initiatives que je crois, petit à petit, va rendre la Cour suprême plus facile à comprendre pour les membres du public. La Cour est, si on fait abstraction de la COVID, la Cour est une institution, un bâtiment public qui est de toute beauté, qui est ouvert au public. Donc, les gens peuvent rendre visite à la Cour, faire une visite de la salle d'audience pour comprendre, voir qu'est-ce que font les juges au quotidien.
Excellent. Nous allons prendre une petite pause. Restez proches. De retour à Versus. Je m'appelle Michael Jaschutek, je suis avec ma collègue Maude Laprise et nous sommes avec l'honorable Nicolas Cazireur, juge à la Cour suprême du Canada. On parlait un peu de l'accessibilité à la justice et monsieur le juge, tout récemment, le juge en chef de la Cour suprême a annoncé que la Cour suprême visitera la ville de Québec en septembre 2022. Et ce n'est pas la première fois que la Cour décide de siéger à l'extérieur d'Ottawa. Elle s'était d'ailleurs rendue à Winnipeg en 2019. Quelle est la pertinence de cette initiative et comment, selon vous, avez-vous apprécié cette expérience en tant que juge?
Bon, oui, vous avez raison de souligner, c'est un fait nouveau dans la vie de la Cour, une institution qui quand même va allègrement vers son 150e anniversaire. Et en 2019, pour la toute première fois, elle a siégé à l'extérieur d'Ottawa. Il y avait une idée qui n'est pas mauvaise que pour, en quelque sorte, ancrer la vocation de la Cour comme Cour pour tous les Canadiens, elle devait se contenter de siéger à Ottawa. Et là, on comprenait ce fait historique-là. Mais avec le temps, on a compris que ce n'est pas tous les Canadiens qui ont le loisir de venir à Ottawa pour voir la Cour en action. Et même c'était parfois difficile pour leurs avocats de se transporter. Le Canada est vers Ottawa. Le Canada est un pays immense. Alors, encore une fois, c'était le juge en chef Wagner qui, s'inspirant d'une pratique établie à la Cour d'appel du Québec et certaines cours européennes, la Cour d'appel du Québec, il y a quelques années, a choisi de siéger à l'extérieur de Montréal ou de Québec, qui sont les deux sièges de la Cour, et a siégé à Trois-Rivières, à Rivière-du-Loup, elle a compris ça. Alors, la Cour suprême a fait la même chose avec cette expérience à Winnipeg que vous soulevez, qui était drôlement ma première semaine à la Cour suprême. Alors, mes premières affectations étaient non pas à Ottawa, mais à Winnipeg, que j'ai adoré. Winnipeg, c'est une ville que je connais mal, mais c'est une ville bilingue. C'était un endroit naturel pour la Cour. Je dis bilingue, c'est surtout de langue anglaise, mais il y a une forte présence et histoire de francophones à Saint-Boniface. Le juge en chef de la Cour d'appel du Manitoba est un francophone. Alors, ils nous ont reçus royalement. On a passé une semaine là, on a non seulement siégé là, mais on est allé vers le public, les membres du barreau, de la magistrature locale. Moi, je suis allé dans une école secondaire pour parler aux étudiants de qu'est-ce que c'est quoi la Cour suprême, etc. Alors, vous avez raison de dire que nous allons répéter l'expérience en 2022, cette fois-ci pour aller à Québec, et qui est d'abord un endroit que moi j'ai l'avantage de connaître mieux que Winnipeg, même très bien. Et nous allons être reçus, nous allons siéger à Québec, on va rencontrer la magistrature locale. Et tout ça s'aligne un peu comme vous le dites, sur une logique d'accès à la justice. Les gens de Québec seront invités à assister, parce que bien sûr les audiences de la Cour sont publiques, assister aux audiences de la Cour, voir, on peut voir les juges de la Cour suprême en action sur le web, mais et même à la télévision, mais c'est pas la même chose quand on les voit en personne. Alors, moi je trouve que c'est un grand bienfait pour la Cour.
Moi, je serais curieuse, en fait, de savoir, vous avez parlé que l'idée de délocaliser, entre guillemets, la Cour suprême, c'était pour accommoder parfois des justiciables ou des avocats qui ne pouvaient pas nécessairement se déplacer. Puis vous avez mentionné aussi qu'on pouvait voir des audiences en ligne. Pensez-vous que c'est quelque chose qui va rester, ça, après la pandémie, de pouvoir visionner en direct les audiences de la Cour suprême pour les gens qui, justement, n'ont pas nécessairement les moyens, que ce soit financiers ou autres, d'assister aux audiences de la Cour suprême?
Je ne peux pas dire avec certitude qu'est-ce qui va être la réalité après la COVID. On est tous un peu dans le même bateau, là.
Oui, c'est ça.
Mais je pense que vous flairez quelque chose de très, très plausible, Maude. Là, il y a des avantages. Regardez, là, je suis à Sherbrooke, même si je suis dans mon cabinet de juge à Ottawa. Et les plaideurs de la Cour, depuis le début de la COVID, si la Cour est physiquement présente, les juges de la Cour sont en salle d'audience, les avocats ou les parties qui se représentent sans avocat plaident par Zoom. Bon, il y a des inconvénients, mais il y a des avantages. Parce que si, mettons, vous représentez un client qui n'a pas beaucoup de sous et n'a pas les moyens pour payer le déplacement à Ottawa, les nuits d'hôtel, etc., etc., la plaidoirie par moyens technologiques est très efficace. Et de la même manière, comme vous dites, regardez la Cour suprême sur le web, qui était possible avant, mais maintenant qui est beaucoup, beaucoup plus facile. est un grand avantage. Alors moi, je pense que oui, là, il va y avoir des choses qui durent là, par la suite. Mais c'est pas moi qui prend les décisions. Je suis un petit juge, je ne suis pas le juge en chef. Il faudrait faire une entrevue avec lui par la suite.
Parfait, on prend ça en note. Pour continuer, vous en avez parlé au début, la Cour suprême n'entend pas nécessairement beaucoup de dossiers par année, environ 70. Au-delà des permissions d'interjeter appel, à quoi ça ressemble une journée typique comme juge à la Cour suprême du Canada?
Mais ça dépend de, d'abord, si la Cour est en session ou non. Alors, quand la Cour siège, normalement, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire, mais normalement, les 9 juges siègent dans tous les dossiers. Ça, c'est un fait un peu nouveau. Par le passé, si vous regardez les grands arrêts de la Cour suprême que vous lisez, par exemple, dans vos cours, vous pouvez compter les têtes de pipe. Et parfois, c'est une formation de 5 ou de 7. C'est pas toujours 9. Même les grands arrêts sont parfois des petites formations. Mais depuis mon arrivée à la Cour, c'est essentiellement 9 quand c'est possible. Alors, moi, je me lève, une journée d'audience, je me lève très, 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 je ne veux pas même pas vous dire, là, entre 4h et 5h du matin. Et je fais mes dernières préparations, j'arrive à la cour, je me toge, je vais en cours. Parfois, je vais échanger un mot avec mon auxiliaire, celui ou celle qui a préparé le dossier. Je siège et après l'audience, les juges se retirent et on va en ce qu'on appelle en conférence. Et la conférence de la Cour, c'est à huis clos. Les portes sont fermées dans une salle avec une grande table ronde et on s'échange au sujet du dossier qu'on vient d'entendre, de l'appel dont on vient d'entendre. On fait un tour de table. Qu'est-ce que chacun pense du sort de l'affaire? Et ces discussions peuvent être animées, on peut imaginer, mais se déroulent dans le plus grand secret. Et on dresse une idée préliminaire de qu'est-ce qui va être le sort du dossier. Et les gens qui s'intéressent à la rédaction des motifs se portent volontaires. Le juge en chef prend tout ça en note. Et là, on quitte et on se retire. Et très souvent, ce que je fais, moi, parce que je suis un vieux professeur d'université, alors les assistants de recherche, j'adore ça. Je fais venir mon auxiliaire qui a travaillé sur le dossier. Je dis, mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les auxiliaires assistent aux audiences. Et par la suite, nous, ensemble, parfois ou moi seul, je dresse un bilan de ce qui s'est produit dans l'affaire et je range ça parce que ça peut être 4, 5, 6 mois même avant de voir le premier projet de motif. Peut-être pas 6 mois, mais du moins quelques mois. Alors ça, c'est une journée audience. Quand c'est une journée où la cour ne siège pas, comme aujourd'hui, là, vous voyez, je ne porte pas de cravate, je suis dans mon bureau entouré de livres et je prépare des dossiers à venir ou je prépare des motifs sur lesquels la Cour m'a confié le devoir de préparer un projet. Je peux travailler, comme vous avez dit tantôt, sur une demande de permission où les juges ne motivent pas leur décision. C'est un oui ou un non, mais tout de même, il faut préparer le dossier. Ça peut être très long. Parfois, je donne une conférence parce que les juges de la Cour font du outreach, comme on dit, aux étudiants en droit comme aujourd'hui ou aux barreaux, peut-être même au grand public. Alors, c'est très varié ce que font les juges de la Cour.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc ça serait la dernière question, peut-être un petit peu moins sérieuse, mais je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants en droit qui sont curieux à ce sujet-là. La fameuse toge rouge qu'on voit sur les photos officielles de la Cour suprême du Canada, c'est quoi la signification en arrière de ça? Pouvez-vous nous en glisser quelques mots rapidement?
Mais c'est sûr que c'est cocasse, hein, les toges rouges. Est-ce que vous avez vu que sur une grande émission de télévision américaine il y a à peu près 2 semaines, quand la Cour, elle, notre Cour, a pris sa photo annuelle des 9 juges à l'extérieur de la Cour Togé en rouge, ça fait la une de ce talk show américain, et puis tout le monde a rigolé parce qu'on a l'air un peu de Père Noël, je ne sais trop. Alors, la vérité est que tous les juges sont dotés de deux toges. Une toge noire qui est portée lors des audiences traditionnelles. Alors, quand vous regardez sur le web, on est normalement en toge noire. Et qui sont beaucoup plus confortables. C'est les mêmes toges, à peu près les mêmes toges que portent les avocats. La toge rouge, c'est la tenue traditionnelle des juges de la Cour. Donc, ça remonte au début de la Cour en 1875. Et ce qui est intéressant, c'est que la toge rouge de chaque juge est passée d'un juge à l'autre. Alors, quand M. Clément Gascon a pris sa retraite, il m'a donné sa toge qui a été ajustée. C'est un grand sportif qui est beaucoup plus musclé que moi. Il fallait donc tailler un peu sur mesure la toge. Et avant M. Gascon, la toge a été portée par le juge Fish. Vous avez peut-être entendu du juge Morris Fish. Et donc, les juges du Québec, là, parce que c'est une filiation des juges du Québec. Avant Fish, c'était le juge Charles Gontier. Et avant Charles Gontier, c'était Jean Betz, que vous avez évoqué en début d'entrevue, qui était drôlement mon juge quand j'étais moi auxiliaire, là, quand je remonte à très, très loin. Alors, le paradoxe, c'est que moi, je porte la toge rouge que mon juge a portée entre 1974 et 1988. Alors, on parle 35 ans après le coup, et M. Betz n'est plus de ce monde. Alors, il n'est pas là pour en rigoler, mais c'est un peu cocasse que je porte le même costume que lui. Wow. Alors ça, c'est l'histoire des toges rouges. Mais elles sont, je dirais pas inconfortables, mais très lourdes, très, très chaudes. Elles sont très lourdes à porter. Alors, c'est pas très confortable. On les porte seulement à des occasions spéciales, la sermentation d'un nouveau juge, une photo officielle, la rencontre de la gouverneure générale, des affaires comme ça.
Toujours en sweatshirt, sweatpants, quand on met des vestons comme en ce moment, ça devient un peu lourd aussi, effectivement. Toute une perspective. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le juge, pour être ici avec nous sur notre balado versus. Merci.
Merci à vous. Merci pour cette invitation.
Vous venez d'écouter Versus, épisode numéro 1 de la 4e saison du balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec l'honorable Nicolas Cazirère. Merci pour votre écoute. Je m'appelle Michael Joshutek et merci beaucoup à ma co-animatrice Maude Laprise. Merci Maude. Merci également à toute l'équipe de la Revue de droit, notamment Irène Meyer, Gabriel Delaunay et Jesse Fafard-Théoret. Merci beaucoup. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui y sont liées, visitez usherbrooke.ca. À bientôt pour un autre épisode.